Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma, présentement sous sa forme extra ball, courte mais intense sortie de route en marge de nos émissions traditionnelles, une dizaine de minutes consacrées à un film d'hier ou d'aujourd'hui, en l'occurrence on fait dans l'actu puisqu'on va s'intéresser à Otage à Entebbe de José Padilla, tout juste sorti sur nos écrans. On va en causer avec mon camarade Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et je précise que nous sommes comme toujours à l'antenne Paris, CénoCiné extra ball spécial Otage à Entebbe, et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Otage à Entebbe, donc, du brésilien José Padilla, qu'on connaît surtout pour le controversé Troupe d'élite, le remake très bancal de Robocop, et son premier film, le documentaire multiprimé Bus 74. Padilla renoue ici avec son goût pour les histoires vraies et nous raconte un épisode célèbre du conflit israélo-palestinien, le raid d'Entebbe, le détournement en 1976 du vol Tel Aviv-Paris par quatre terroristes, deux palestiniens, deux allemands, vers l'Ouganda, dirigé à l'époque par Amin Dada, d'où ils vont tenter de négocier la libération de membres du Front populaire de libération de la Palestine, tandis que l'armée israélienne se prépare à riposter, et au casting on trouve entre autres Daniel Brühl ou encore Rosamund Pike. Qu'est-ce que ça vaut tout ça, mon bon Stéphane?
C'est un véritable retour en forme pour Padilla, moi, ouais. Je trouve, après je parle au cinéma, et c'est important de voir ce genre de film là au cinéma aussi, parce que mine de rien j'ai l'impression que ce genre de fiction adulte et très documenté, très travaillé, en fait, c'est devenu un peu l'apanage des séries télé ou ce genre de choses.
De plus en plus.
Et notamment, on a bien vu que Padilla était parti sur Narcos, ouais. Pour Netflix, sur Escobar. Et c'est important, je trouve, en fait, d'avoir, je trouve, une forme ramassée, une façon de résumer vraiment les enjeux et de faire ressortir l'attention de ces enjeux-là de manière cinématographique au cinéma, quoi. Et donc oui, c'est un retour en forme, c'est un, vraiment, moi je trouve, un film audacieux, formidable, très documenté, assez... Enfin, il y a une logique, il y a une approche, en fait, si tu veux, un angle qui est clair, net et précis. Quand on parle avec Padilla, parce que je l'ai interviewé du coup pour la sortie, quand on parle avec lui te parle d'une approche en fait, qui est extrêmement documentée, qui se base sur les faits. Lui, ce qui l'a intéressé dans le, parce que c'est des films qui ont déjà été, enfin c'est un événement qui a déjà été
traité de nombreuses fois, notamment par des téléfilms, et puis c'est un événement qui est très connu en Israël, donc il y a eu beaucoup de choses tournées en Israël autour de ça.
Voilà, notamment un film de Menahem Golan.
Voilà.
Et un autre, mais c'est pas le même, contre toute attente, c'est pas le même, et un autre avec Charles Bronson. Mais le truc, c'est que c'est des films en fait qui étaient plus ou moins à la gloire de l'armée israélienne, ouais, et la façon sûr. dont ils ont pu défaire la prise d'otage, parce qu'il y a eu très très peu de pertes. Ce dont parle Otage à Entebbe, c'est surtout à la fois d'abord le parti pris des preneurs d'otages, leur fonctionnement, leur raisonnement, et ça s'ancre beaucoup là-dessus. Et en deuxième partie, ça prend le pas dessus, c'est les ramifications politiques entre Yitzhak Rabin et Shimon Peres, qui étaient pas du tout d'accord avec l'idée de lancer une intervention.
Une intervention militaire.
Et c'est de ça dont parle le film, en fait. Et comme tous les bons films politiques qui sortent, on va dire, aujourd'hui, mais qui traitent du passé, ils parlent évidemment du présent.
Oui, forcément.
Et c'est la logique du film ici aussi. C'est-à-dire qu'en gros, le film évoque très clairement la situation au Moyen-Orient, la situation en fait avec Israël et la Palestine, et toute cette logique en fait de l'emploi de la force en fait dans les deux sens en fait pour
parvenir à ses fins.
Voilà, c'est ça. Et du coup en fait là où Padilla est extrêmement doué, je trouve, en fait pour faire ressortir ça, c'est que il y a des enjeux dans ces scènes-là aussi, en fait. Et comme c'est un cinéaste, vraiment, c'est-à-dire que c'est pas seulement... Là, je parle pas uniquement de filmage ou de ce genre de choses, mais en fait, il a une approche qui est à la fois pragmatique et à la fois, en même temps, presque une approche de documentariste, mais qu'il adapte pour des besoins narratifs du cinéma. Donc, en gros, Alors, c'est un spoil sans être un spoil, hein, parce que tout le monde connaît l'histoire. Mais en gros, la façon dont il intègre ça dans le film, et il l'intègre, moi je trouve, avec une idée extraordinairement forte et ingénieuse, c'est qu'il utilise en fait une scène de danse moderne qu'il va infuser en fait pendant tout le film, qu'il ramène hein, diégétiquement dans le film. En fait, il y a une histoire en fait qui est liée à ça, ce qui n'est pas le mieux fait d'ailleurs. Moi, je pense qu'il aurait pu s'en passer, mais oui. Je pense que pour des raisons justement narratives et dramatiques, il avait besoin de le garder. Et en fait, il le fait exploser dans un crescendo monstrueux en fait dans l'attaque finale. C'est la scène finale du film. Et en fait, dans un espèce de montage alterné qui moi je trouve décuple la force de l'intervention quoi. Et c'est ça le créneau en fait du film, qui le fait que le film fonctionne très très fort en termes de cinéma et que qui fait que en gros bah on est pris dans cette tension permanente quoi. Il y a c'est difficile de parler de ce film sans parler de logique politique en fait à partir du moment où et en plus c'est difficile de prendre parti là-dedans parce que toi, tu peux apprécier le film. Je pense que le film s'est fait un peu, pas désinguer, mais il s'est fait un peu remettre en question, notamment en Israël. Notamment parce que je pense que ce qu'il infuse au final comme idée générale, c'est que cette intervention, c'est une intervention, comme on l'a dit, qui est un fait de gloire.
Oui, complètement.
Ce que le film...
ne met pas forcément en valeur.
Bah, c'est pas seulement qu'il le met pas en valeur, c'est qu'en fait, en termes de tonalité, c'est pas ce qui ressort en fait, au final du film. Quoi. C'est-à-dire que tous les sacrifices et tous les enjeux qui ont dû être mis en place, c'est ce sur quoi il s'attarde à proprement parler, et c'est ce qui participe encore une fois de la tension dramatique. Donc ça c'est la partie, on va dire... géopolitique même. Et après, il y a la partie humaine en fait du film, c'est-à-dire que, y compris chez les preneurs d'otages en fait, et la façon dont eux fonctionnent vis-à-vis de ce qu'ils voulaient faire et ce qu'ils voulaient mettre en avant. Il y a des prises de liberté avec la réalité, obligatoirement, mais disons que c'est probablement de tous ces films-là, puisqu'il a l'avantage d'arriver 40 ans après les faits. Oui. D'être plus documenté que ceux qui étaient sortis dans la foulée, et notamment, je pense, celui de Ménène Bollan, encore une fois, quoi, et qui est probablement pas du tout parti pris, mais le truc c'est qu'en fait par exemple il y a des personnages qui sont pas des vrais personnages, qui sont des résumés de personnages en fait, qui synthétisent deux personnages en même temps, ce genre de choses, et après t'as d'autres situations où tu le sais en fait quand t'es en train de regarder le film que c'est une situation qui est pas vraiment arrivée. C'est notamment une scène de confession plus ou moins de Rosamund Pike à la fin du film qui est en plus extrêmement belle en fait, extrêmement touchante, parce que elle touche un peu la folie en fait de ces preneurs d'otages, la raison de que leur fonctionnement en fait, tu vois, leur idéologie politique a pris finalement s'est fait bouffer en fait par la folie de la situation quoi, de rester une semaine comme ça dans ce jus en fait, exactement. Et donc du coup il y a tous ces trucs en fait qui se mettent en place et qui font que bah voilà, on rentre dans une espèce de voilà, encore une fois, je peux pas utiliser un meilleur terme que tension phénoménale. Je dis ça parce que ça manque. Moi, je trouve que ça manque beaucoup à ce genre de film, à ce genre de thriller politique. En fait, je pense à des films comme Syriana ou ce genre de choses. En fait, où tu peux comprendre la démarche, la façon dont eux essayent de t'expliquer, de résumer des enjeux géopolitiques importants, mais en restant tellement sur les faits que finalement il n'y a pas d'implication pour toi le spectateur, sauf si le sujet t'intéresse vraiment passionnément.
La tension dramatique passe un peu au deuxième plan.
Exactement, et le problème en fait c'est que du coup ce genre de choses, si t'es déjà intéressé par ça, finalement c'est un digeste dont tu peux te passer quoi. Donc là l'idée c'est vraiment en fait de multiplier en fait tout ce raisonnement humain et de le faire exploser quoi. Et mine de rien c'est aussi un retour en forme parce que c'est une flèche en termes de ce film c'est une flèche, ça va droit au but, c'est en termes de thématique, en termes de tout ce que ça raconte, c'est clair, net et précis, ce qui n'était pas forcément le cas. Alors on connaît les problématiques de tournage, on connaît les problématiques avec les studios de Robocop, son remake quoi, qui est déjà je pense qui était un film problématique parce que c'est problématique de remaker Robocop et de pas essayer de refaire la même chose en fait fondamentalement, puisque c'est un film qui tient debout 40 ans après 30 ans après sans et qui est encore d'actualité, mais en plus parce que bah, il avait tous ces impératifs de PG-13, donc faire un film où tu te retrouves avec Robocop qui est finalement un taser et ce genre de choses quoi. Là justement en fait le fait d'avoir quelque chose de beaucoup plus ramassé en fait d'être, parce que c'est une prod anglaise, c'est même pas une prod américaine en fait,
c'est une production britannique,
Working Title, ça lui permet en fait de contrôler tout le film quoi, et ça c'est assez évident. Ensuite le truc c'est que bon, il y a peut-être un ou deux, mais ça, c'est vraiment si tu pinailles, Il y a peut-être un ou deux moments un peu problématiques dans le film, enfin notamment t'as le maquillage de Shimon Peres qui peut être un peu comment dire. Enfin moi je sais que j'ai un peu, disons que j'ai beau adorer les films d'Oliver Stone, j'ai un problème déjà avec ça dans ce genre de cas. Donc je peux lui accorder aussi à José Padilla, c'est un peu le même problème qu'on va dire. Mais c'est pas très grave en fait au final parce que encore une fois, je pense que le film fait passer son message sans souci quoi. Et voilà, enfin c'est pour résumer, en fait, on pourrait dire que c'est certes un thriller politique, certes clairement un film à message, comment dire, qui se pose là, probablement le plus couillu, je dirais, sur le sujet depuis le Munich de Spielberg, avec lequel il partage certaines, il n'a pas la même virtuosité ou le même, voilà,
aussi,
mais
oui.
Il partage les mêmes certaines thématiques et certaines orientations politiques, on va dire. Et puis certaines mises en perspective, tout simplement, du sujet. Mais avec, en tout cas, un soin assez similaire dans la reconstitution, dans le jeu d'acteur. Parce que, mine de rien, moi, je n'ai jamais été un grand fan de Daniel Brühl. Et là, je le trouve vraiment excellent. Quoi. C'est vraiment le rôle... Rosamund Pike, elle est formidable aussi. Mais elle, on savait déjà qu'elle pouvait...
C'est un moment qu'on sait qu'elle est formidable.
Voilà. Depuis Doom, avec The Rock, évidemment.
Bien sûr.
Non, mais évidemment, blague à part, Gone Girl et tout ça. Ouais. Donc voilà,
c'est... style, encore récemment.
Ouais, j'ai pas vu celui-là, mais certainement.
C'est excellent.
Voilà. Et donc voilà, en fait, c'est tous ces éléments en fait, qui convergent, qui font que tu te retrouves en fait, avec un vrai, vrai gros morceau de cinéma qui a une... Encore une fois, le maître mot, c'est tension. Une telle tension à couper au couteau que t'as l'impression de ressortir d'un film d'action, en fait, à proprement parler, même si... globalement, c'est pas le cas. Quoi. Donc voilà, c'est vraiment recommandable. Quoi.
C'est recommandable et c'est recommandé par nos ciné otages à Antebé. C'est en ce moment au cinéma. Notre temps est écoulé. Merci Stéphane. Merci à Quentin, la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil. www.binge.audio pour retrouver toutes nos émissions, toutes les infos sur notre réseau de podcast Binge Audio. Et on vous dit à très bientôt.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.